Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Cohen pour son nouveau roman « Des amis de longue date » qui paraît aux éditions du Penseur. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir il y a 2 ans, je crois, pour La Rédactrice, votre premier roman. Et nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de votre nouveau livre. Comme le veut la tradition, dans cette émission, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né en Tunisie, à Sfax, je crois. Vous avez rejoint très jeune la France. Vous avez travaillé à France Culture, où vous avez conçu et réalisé des émissions sur les philosophes et le langage, avant de poursuivre votre parcours dans de grandes agences publicitaires, d'abord comme rédactrice, puis comme directrice de création, un domaine où vous avez remporté de nombreux prix internationaux. Depuis quelques années, vous vous consacrez à l'écriture de romans. La Rédactrice inaugurait ce nouveau chapitre avec un récit personnel et sensible, marqué par la quête du mot juste. À travers les fragments de vie de votre narratrice, se tissait déjà une réflexion sur l'écriture. Et aujourd'hui, Des amis de longue date prolongent cette aventure et je dirais même qu'ils l'approfondissent. Des amis, vous en avez beaucoup, de vrais amis, ceux qui aident à grandir, ceux qui façonnent une vie. Longtemps, vous avez été la petite, celle que l'on protège et que l'on entraîne. Des années plus tard, vous brossez le portrait de ces grands amis, un homme de spectacle, un réfugié élégant, un ami de Georges Perec, un cinéaste picassiette, un poète analphabète, un fan de Sacha Distel, une trapéziste avec son éléphant provençal, et tant d'autres. Leurs histoires se croisent, s'entrelacent, formant un patchwork de vie cousue de fil rouge. On rit, on écoute, on se dispute, on s'apprend, on se perd de vue, on perd la tête parfois, on meurt aussi, mais on n'y pense pas trop, car on est spinoziste. Et c'est ce que vous nous expliquez dans un chapitre. Le mot de votre éditeur que je partage volontiers, « Je n'ai jamais vécu l'époque dont parle Michel Cohen, ni rencontré ses amis, et pourtant, elle m'a donné l'impression de connaître intimement chacun d'eux. Ce livre m'a apporté beaucoup de joie. J'espère qu'il vous en apportera autant. » Et je dois dire qu'à moi aussi, ça a été un vrai plaisir de lecture. Alors racontez-nous, Michel Cohen, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman ?
Déjà, est-ce que c'est un roman ?
Est-ce que c'est un roman ?
Mais oui, ça l'est quand même. Oui, oui, je crois. J'avais des textes dont certains écrits depuis déjà très longtemps. Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des textes que j'ai écrits au fur et à mesure que les choses se déroulaient devant moi. Certains de mes textes avaient 30 ans, d'autres en avaient 20. Et en fait, j'ai eu l'idée de... C'était chaque fois des portraits d'amis ou d'événements. Et j'ai eu l'idée de les rassembler et d'en faire quelque chose d'organique, c'est-à-dire que il y a des échos d'un texte à l'autre et que à la fin, si vous voulez, ces textes qui étaient un peu épars, un peu hétéroclites, je les ai tellement rassemblés que à la fin, si j'en enlevais un, ça marchait plus.
Et vous expliquez aussi par quel texte commencer, et puis vous soulignez le fait, est-ce que c'est un roman ? C'est la question qu'on se pose aussi. Est-ce que ces amis sont vraiment les vôtres ?
Ah oui, oui. Ah oui, non, tout est vrai. Il y a des toutes petites choses qui sont pas vraies, oui, et qui m'ont fait tellement plaisir à écrire. Je me suis dit que peut-être j'allais bientôt être prête à écrire une fiction. Mais comme je voulais établir des liens entre différents chapitres, par exemple, j'ai inventé... je devais annoncer un chapitre où j'ai rencontré un ami de Perec.
On va en parler.
On va en parler. Et en fait... J'ai inventé le fait que j'ai un jour croisé cet homme et Perec dans un escalier. Et ben ça, c'est faux. C'est une des seules choses fausses du livre. Et ça m'a fait un plaisir fou d'inventer une chose aussi insignifiante.
Alors, je dois vous dire que je vous envie, oui, d'avoir croisé autant de personnages si riches, si hétéroclites, parfois aussi inquiétants. Est-ce que vous mesurez la chance que vous avez eue dans votre vie de rencontrer ces personnalités ?
Peut-être, oui, oui, bien sûr, oui, oui, je mesure cette chance, oui, 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 c'est vrai, il y a des histoires qui sont, par exemple, la rencontre avec Carlos, le nain, oui. C'est probablement une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie. Oui.
Alors, ce fameux Carlos, oui. Il faut en parler, évidemment. Oui. Alors, moi, j'avais eu la chance de le voir sur scène,
oui.
Dans La Belle et la Toute Petite Bête avec Ariel Dombal. Et grâce à vous, eh bien maintenant, je le vois d'un autre côté, du côté de son intimité. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui il était ?
Ben, c'était un petit homme, comme on dit aujourd'hui, un nain. Il mesurait 1 mètre ou 1 mètre 10. Enfin, et il m'était un jour tombé dessus. Enfin, c'est un peu long à raconter comment il m'est arrivé, mais un jour, j'ai ouvert ma porte, il était là et il fallait que je m'en occupe. C'était son destin et le mien, c'était qu'on s'entraide. Et je lui ai trouvé un endroit où loger, puis j'ai essayé, qu'est-ce qu'on fait avec un nain grec, avec un accent épouvantable qui roule les airs et qui a son caractère par oui. ailleurs. Et du coup, j'ai commencé par appeler Bouglione, et puis Pindare, et puis à chaque fois, il se faisait engager. Parce que les gens avaient besoin c'était intéressant pour eux, pour les cirques. Mais au bout d'un moment, ils m'appelaient, ils me disaient, ils sont méchants. Et c'est là qu'on s'est dit, avec une amie dont je trace aussi le portrait dans un autre chapitre, on s'est dit, mais on n'y connaît rien au cirque et tout. La seule chose qu'on connaissait un peu, c'était le grand Magic Circus et ses animaux tristes. Alors, c'est terrible parce que les gens plus jeunes que moi n'ont plus aucune idée de ce que c'était que le grand Magic Circus. C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était complètement un art. C'était une troupe...
Jérôme Savary.
Oui. Et c'était tellement inventif et tellement joyeux. Et on allait là-bas, on était assis par terre. On avait envie, en sortant, de cracher le feu, de s'aimer les uns les autres. C'était un truc de bonheur total. Et j'ai appelé Jérôme Savary et Carlos est entré au Grand Magic Circus. En se méfiant énormément d'ailleurs, parce que... Qu'est-ce que c'était que ce cirque et pourquoi les animaux étaient tristes? Enfin bon, voilà.
Et puis une grande amitié est née entre... Oui.
Entre Jérôme Savary et lui, c'était, oui. c'était vraiment à la vie, à la mort. Hein.
Et si on tape Savary et Carlos, on oui. trouve une photo oui. de deux oui. Sur le net.
Vous l'avez trouvée?
Alors je l'ai vue, oui.
Ah c'est vrai, ouais. mais parce que je ne l'ai pas trouvée.
Et alors, je vous enverrai oui. le lien.
Parce qu'elle a été pendant un temps, vous voyez, sur la place du Trocadéro, le palais de Chaillot, et cette photo immense a recouvert tout un pan de la façade du palais de Chaillot.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on a fini le chapitre, eh bien, on a envie d'en savoir plus et on va faire quelques recherches.
C'est ça.
Et il y a notamment un autre personnage fascinant, c'est cet homme élégant. Un vieil ashkénaze,
oui, c'est ça.
Époustouflant d'intelligence, proche de Georges Perec,
oui.
qui lui souffle parfois des idées.
Oui.
Et il n'est pas nommé. Alors, il n'a pas son nom, pourquoi ?
Non, j'ai fait exprès de ne pas le nommer, et si vous l'avez trouvé, ne le dites pas. C'est pas tellement difficile à trouver, en fait, hein, puisque je donne des indications. Oui. Mais...
Qu'il est cité dans une biographie.
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Dans toutes les biographies oui. de Perec, il est cité parce qu'il a été un peu son mentor au début. Et ils ont fait ensemble une revue. Mais là, je fais attention de ne pas le citer parce que c'était un enfant caché. Il a été un enfant caché. Et au fond, il est resté un enfant caché toute sa vie. Et c'est... Parce qu'il a été un enfant caché, c'est à ça qui fait remonter son impossibilité d'être un écrivain. Il m'a dit un jour, quand on est un enfant caché, on ne montre pas ses papiers. Et Perec était convaincu que c'était un écrivain, qu'il n'avait juste pas encore écrit de livre. Et non, et il est resté. Donc, j'ai fait
attention. Est-ce que c'était votre choix de ne pas donner son identité ou c'était
Bien sûr.
Lui, oui
non, non, lui est mort entre-temps. Il est mort il y a très peu de temps.
Oui.
Et c'était mon choix de pas, c'était du respect.
Alors il y a d'autres noms cités, une femme, celui de Nathalie Sarraute particulier. Alors ça, on apprend aussi des choses que elle écrit toujours dans le même café, qu'elle a un manteau élimé, qu'elle est presque clocharde. Hein, peut-être que le terme est un peu fort. Qu'est-ce que vous retenez d'elle ?
C'est un peu exagéré oui. de dire clochard. C'est juste que je me souviens de cette anecdote de la fille de Nathalie Sarraute qui était un jour venue lui rendre visite dans ce café où elle travaillait tous les jours. Elle écrivait là. Et le patron lui avait dit, non mais vous avez vu, elle a un manteau râpé là, il faudrait lui acheter un nouveau manteau. Elle n'était pas clocharde du tout. Mais Ce que je, ben moi j'adore Nathalie Sarraute, j'adore sa finesse, j'adore la façon dont elle analyse les relations, les mots échangés entre les gens. Et ça me plaisait qu'elle soit là parce que elle dit qu'il y a aussi de la haine qui circule dans l'amitié. Et j'étais contente que cette parole-là soit présente aussi. Je voulais pas donner une image trop naïve, trop innocente.
Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des autres personnages que vous avez croqués ?
Oui, il y a par exemple, il y a une amie qui a vraiment été une initiatrice pour moi. Et je dis d'ailleurs dans la table à la fin qu'elle m'a appris comment naissent les bébés, comment on fait cuire les pommes de terre, comment on écrit, comment on filme et comment on meurt. Et en effet, j'ai assisté à son accouchement et c'était un moment où on pouvait pas voir ces images-là. C'était tabou, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, n'importe qui va filmer avec son téléphone. À l'époque, on voyait pas ça. Et puis, elle est morte très, très jeune. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup enseigné. C'est une initiatrice. Sinon, il y a un poète qui s'appelle Emmanuel Occart, qui a aussi été quelqu'un d'important dans ma vie. J'ai glissé là-dedans une histoire avec mon beau-père, pour qui j'ai eu, quand c'est arrivé, c'est-à-dire c'était la fin de sa vie, c'est un texte plus dur que les autres, où je raconte, comment il avait perdu la tête, enfin, c'était juste avant qu'il ne soit placé dans un EHPAD. C'est un moment très dur et j'ai raconté cette histoire parce que j'ai eu à ce moment-là avec lui une espèce d'amitié, de fraternité humaine, quoi. Voilà. Je sais pas, il y a d'autres gens.
C'est incroyable, je vous écoute, oui. Mais comment on se retrouve à rencontrer de telles personnalités ?
Je sais pas, c'est peut-être...
Vous étiez pas au bon endroit, au bon moment ?
Peut-être.
Ou d'une rencontre vous en apporte une autre ?
Peut-être, c'est aussi le regard que je peux porter sur eux aussi, sûrement. Mais je sais pas. Ce qui se passe, et je l'ai dit en quatrième de couverture, c'est que longtemps j'ai été la plus jeune. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je peux raconter leur vie, et y compris leur mort. Parce que sinon, si je peux raconter cette histoire, c'est pas parce que je suis immortelle et que meurt tout. Non, c'est parce que j'étais la plus jeune, donc je les ai vus vivre et je les ai vus mourir.
Et puis, il y a l'association des amis de Spinoza.
Ah, l'association des amis de Spinoza.
Alors, et c'est à la fois joyeux et philosophique, et vous le racontez très bien.
Oui, enfin, j'ai rencontré Maxime Rovert, qui est un philosophe, qui a été tout à fait adorable, et qui a bien voulu me... Parce qu'il a écrit un livre, Maxime Rovert. Il travaille sur Spinoza depuis très longtemps, maintenant il fait d'autres choses, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Le clan Spinoza », dans lequel il revient sur tout ce qu'il a... Pour lui, ce sont des légendes. Toutes les légendes qui ont couru sur Spinoza depuis toujours. Le fait qu'il était solitaire, le fait qu'il a gagné sa vie en polissant des lentilles, le fait que... toutes ces choses. Et en fait, il dit, mais non, que pas du tout. Que Spinoza avait plein d'amis ses amis ont payé pour qu'il puisse travailler. Il a peut-être poli des lentilles pendant un an. Il s'intéressait à l'optique, mais c'est pas comme ça qu'il. Enfin bon, voilà. Donc ça. Et puis il m'a raconté, oui, les relations de Spinoza avec ses amis, et puis quelle théorie Spinoza pouvait avoir de l'amitié. Et puis si lui-même, en tant que aujourd'hui lecteur de Spinoza, pouvait se dire ami de Spinoza. Est-ce que voilà.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Cohen, qui nous parle de son livre « Des amis de longue date » qui a paru aux éditions du Penseur. Votre livre est traversé par le rire, l'écoute, les disputes, les retrouvailles, les pertes, et puis une sorte de lucidité joyeuse. Et je vais lire un passage que vous écrivez vers la fin. Parce que la sagesse, comme je l'ai dit, ça circule entre les individus. On n'est pas sage tout seul, on est sage ensemble. Et donc, on a besoin d'amis, pas seulement pour s'exercer à la sagesse, ni dans une vision nietzschéenne, c'est-à-dire des amis qui soient mes adversaires, des adversaires en ma faveur, contre moi-même, qui m'aident à me dépasser. Est-ce que c'est ça votre définition de l'amitié ?
Ça, c'est la version, la définition nietzschéenne, c'est pas celle de Spinoza. Spinoza, c'est pas dans la rivalité, c'est vraiment travailler ensemble, oui. Et c'est magnifique. C'est ce que dit Spinoza, c'est qu'on peut pas être sage tout seul en allant tout seul sur une montagne. On a besoin des autres.
Mais est-ce que c'est votre définition à vous de l'amitié ?
Oh oui.
Oui ?
Oh oui. Oui, 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 oui. C'est difficile, les autres, hein. mais c'est, oui, bien sûr. Oui,
voilà,
oui,
bien là, sûr. On passe vers une définition plus lévinassienne, le rapport à l'autre, au visage
de
l'autre.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Vous avez un goût pour la broderie.
Oui.
On l'a su déjà dans le précédent livre. Et puis, on peut dire que ça se ressent aussi dans votre manière d'écrire, des portraits cousus de fils rouges, de fragments qui s'assemblent. Comment vous constituez un tel livre ? Vous nous l'avez dit, écrit sur différentes années, des histoires. Comment après on les associe ?
Ça, c'est la partie qui me passionne le plus. C'est ça, comment faire un tout avec des fragments plus ou moins longs, avec...
Des fragments, des éclats d'existence,
oui,
des étincelles de vie,
oui, c'est
que
ça.
Vous associez.
Oui, c'est ça. Et ben, c'est comme faire du montage de cinéma et c'est comme broder. J'adore le montage de cinéma, le montage de radio. J'ai toujours fait des choses extrêmement différentes dans ma vie, des films, des émissions de radio, des broderies, des expositions. Tout. Et chaque fois, j'ai l'impression de faire la même chose. C'est-à-dire de chercher à faire un récit avec des choses fragmentaires.
Et vous continuez de broder ?
Oui. Alors, c'est terrible parce que vous voyez, j'ai les mains qui sont en train de se déformer. Et depuis qu'elles se déforment, je n'ai pas osé rebroder. Je ne sais pas encore si je peux continuer, mais j'espère que oui.
Est-ce que vous écrivez à la place ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que je suis invitée là à un colloque sur des artistes textiles à la rentrée. Et tout d'un coup, ça m'a donné envie de rebroder. Et peut-être que cet été, je vais m'y remettre.
Vos personnages, et c'est ce qui est intéressant, sont assez complexes parce que... ils ne sont pas tous sympathiques, finalement. Ils sont attachants, mais vous montrez bien leurs défauts et puis aussi leurs qualités. Il y a une sorte d'exploration des contradictions humaines. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre style ?
C'est-à-dire, j'essaye d'être juste et précise. Et sinon, sinon, c'est de la langue de bois. Donc, si on est juste, si on est précis, c'est nuancé. Les choses sont nuancées. On ne peut pas juste dire quelle personne merveilleuse ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas intéressant, quoi. Alors que si on essaye d'être nuancé, d'être précis, c'est ça que je cherche.
Alors, comment qualifier votre livre ? Est-ce qu'un ouvrage autobiographique, un roman autobiographique, un essai ?
Je vous avouerai que je suis un peu dépassée. À vrai dire, je crois que c'est bien de dire roman. C'est pas mal de dire roman. Parce que sinon, si je dis c'est des récits, après on va penser que c'est pas relié les uns aux autres, c'est des nouvelles, on n'aime pas les nouvelles. Enfin non, c'est un tout. Mais c'est vrai qu'il m'échappe un peu.
Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Pourquoi
non,
je vous pose la question ?
Hélas.
Non, parce qu'il y a une musicalité dans votre écriture, une cadence, un humour discret, un rythme. Est-ce que, alors c'est votre expérience à la radio qui vous apprend ça ?
C'est gentil comme tout. Mais oui, en fait, le rythme, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'un texte, mais même entre les textes, je mettrai un texte long, un texte plus bref, un texte plus vieux. Vous voyez, enfin, c'est vraiment composé, effectivement. Alors moi, je parle de montage, mais j'aurais adoré faire de la musique, mais dans une autre vie.
À qui pensez-vous que ce livre plaira particulièrement. Est-ce que vous avez un lecteur idéal ?
Lecteur, j'ai deux ou trois lecteurs idéaux qui l'ont lu. Enfin, je veux dire, c'est des gens tout à fait proches.
Oui.
Et si ces gens tout à fait proches, je veux dire, ma fille ou, me dit ça va, donc je me dis ça va. Vous voyez, c'est ça mes lecteurs les plus proches. Sinon, ça m'a fait sourire. C'est que là, le livre, il commence à peine, il vient à peine de sortir. Mais il y a plusieurs personnes qui j'ai vu acheter ce livre en disant je vais l'offrir à un ami ou à une amie de longue date. Et il y a même des gens qui ont commencé à se photographier, par exemple deux mecs qui se photographient avec le livre au milieu pour dire nous sommes des amis de longue date. Donc peut-être qu'il a une carrière de ce côté-là, du côté des gens oui. qui veulent affirmer leur amitié.
D'où l'importance du choix du titre. Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé alors, ou votre éditeur vous a
non,
aidé ?
Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui. Et quand je l'ai trouvé, j'ai énormément hésité. Je me suis dit non, ça ne va pas. J'ai cherché mille autres choses. Et puis finalement, j'en suis restée là. Et maintenant que le livre existe et qu'il est sorti, quand je vois ces gens le prendre comme un gage d'amitié, ben, je me dis que c'est très bien. Je suis très contente.
Alors, des amis de longue date qui sont restés longtemps dans votre entourage, mais on a l'impression que ont une fin d'amitié.
Comment ?
Il y a une fin d'amitié, que ça se termine à un moment.
Ah, alors, s'il meurt, il meurt. Je veux dire, si je meurs, je meurs. Mais sinon, il y a aussi par exemple, il y a un des amis pour lequel je raconte que, oui, ben, ça s'est défait.
Oui.
Qu'au fil des années, bah, il a été occupé à des choses plus importantes. Nous, on avait une espèce d'amitié très légère, très allègre. On s'amusait beaucoup, c'était des jeux. Et puis, il a été pris par des choses plus sérieuses, plus importantes, plus tout ça.
Celui que vous avez hébergé ?
Ah non,
c'est encore
un
autre.
Ah oui, c'est d'accord. Non, je parlais du poète, d'Emmanuel Occart. Mais avec qui, cela dit, je ne suis pas... Oui, les choses se sont distendues. Mais bah, ça, c'est une histoire très rigolote, celle du parasite.
Et puis la chute.
Bah oui.
Vous pouvez la raconter rapidement.
C'est-à-dire, c'est un ami, c'est quelqu'un dans les années 70 qui est venu habiter chez moi. C'était un cinéaste d'avant-garde, plutôt talentueux. Et on m'a demandé si je pouvais l'héberger quelque temps parce qu'il était dans la merde, il fallait l'aider. Donc j'ai dit ok, je l'ai aidé, et puis vraiment je l'ai aidé beaucoup, et puis il partait pas, et puis c'est devenu une espèce de parasite. Finalement, j'ai réussi à trouver un autre endroit, enfin j'ai réussi à m'en débarrasser. Et 30 ans plus tard, je passais devant le cinéma de l'Entrepôt dans le 14e, Et j'ai vu qu'il allait y avoir une rétrospective de ses œuvres. Lui, je n'ai pas donné son nom pour une rétrospective de ses œuvres. Et je me suis dit, oh ben ça alors, je vais l'attendre. Et j'ai attendu. Et sur ce, il est apparu, il est arrivé, il était entouré de toute une bande de jeunes gens, très admiratifs, parce que c'est un bon cinéaste. Et il m'a reconnu, on s'est reconnu, etc. Et les jeunes gens étaient autour de lui, ils disaient, bon, est-ce qu'il va y avoir un débat ? Ben non, il ne peut pas y avoir de débat, a-t-il dit, parce que je dois partir tôt, je ne suis pas logée à Paris, tu dois partir. Et les jeunes gens lui ont dit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il a dit, ben non, non. Et puis il m'a regardé, il a dit, à moins que... Et tout d'un coup, il fallait que je le... reloge chez moi. Je suis partie en courant. Je me suis dit, oh ben non.
Eh bien, entre la réalité et la fiction, on a l'impression que c'est fictif.
Ah oui, ça, mais vous pensez que c'est fictif
parce que c'est tellement énorme.
Ça, c'est vrai.
Et c'est vrai.
Oui, ça, c'est
donc,
vrai.
Donc, quasiment tout est vrai.
Oui, je vous dis, sauf cette histoire de Pérec que j'ai jamais rencontrée dans un escalier. Il y a peut-être une ou deux petites autres choses, mais vraiment extrêmement peu. Oui.
Donc, on en vient quand même au caractère extraordinaire, même si vous n'y pensez pas,
oui.
De rencontrer des personnalités qui vont faire carrière quand même.
Oui, peut-être. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Bon, vous avez ce don-là d'attirer des personnes...
Ou de les admirer, ou de les aimer.
Importantes.
Oui. Enfin, oui.
Est-ce que vous êtes sur le projet d'écriture d'un nouveau livre ?
Oui.
Oui, vous pouvez nous en dire un mot ?
J'ai fait un premier livre... Ouais. j'ai fait un premier livre sur l'écriture, en fait, où j'ai énoncé toutes les différents rapports que j'ai pu avoir avec l'écriture dans ma vie. Aussi bien, mais des choses très concrètes, très matérielles. C'était pas Kafka ou Blanchot, c'était faire une dissertation, écrire une lettre à un fournisseur ou écrire un éloge funèbre, enfin tout ça. Et c'est pareil, c'était fragmentaire et ça faisait un livre, un roman. Et là, c'est mes amis. Et j'ai dans l'idée, peut-être je ne devrais pas en parler parce que je n'ai pas commencé, enfin je commence, mais de faire ça avec des objets. Voilà.
Toujours la broderie.
Oui, encore la broderie.
Et l'association.
Oui.
Il y a une question pour conclure cette émission traditionnelle, celle de nous dire si en une ou deux phrases, vous deviez recommander votre roman. Qu'est-ce que vous diriez aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom? Pourquoi le lire?
Je dirais qu'il fait du bien. Et je dirais qu'il a... Je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a dit. Et je dirais qu'il est... Bien sûr, il y a beaucoup de morts, par exemple, mais il est surtout plein de vie. Je crois qu'il y a beaucoup de vie là-dedans.
Il y a une question que j'ai oublié de vous poser, c'est la judéité qui finalement apparaît régulièrement dans chacun de vos ouvrages.
Je m'appelle Cohen, hein. Et je suis juive, il n'y a aucun doute là-dessus, oui. Et il y a par exemple cet ami de Pérec dont je ne donne pas le nom, évidemment, c'est un Ashkenaz. Il y a un autre dont on n'a pas parlé, c'est mon ami Hugo, pour lequel je fais dire un kaddish dans une synagogue où normalement ils ne sont pas d'accord parce qu'il a été incinéré. Donc c'est tous les efforts que j'ai dû faire pour faire accepter que la synagogue de la rue pavée, on accepte de faire dire un kaddish pour quelqu'un qui a été incinéré. Oui.
Alors oui, il faut lire vraiment cette histoire. On ne va pas vous raconter, c'est encore une fois extraordinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de dire que vraiment ce livre est un livre à lire. Il m'a beaucoup plu. Il est très bien écrit, il fait du bien et on est déjà en été, hein, mais on sera probablement d'ici quelques jours ou quelques semaines sur notre destination de vacances et c'est vraiment un livre à emporter avec soi. Et puis c'est vrai que par le titre, Des amis de longue date, c'est un livre à offrir pour célébrer l'amitié avec certains de nos proches et on ne sait pas parfois comment le dire, donc mieux qu'un bouquet de fleurs, Des amis de longue date, ça veut tout signifier. Merci vraiment infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis j'espère à très bientôt. Et je rappelle, donc, votre actualité, c'est la parution de ce roman Des amis de longue date, Michel Cohen, aux éditions du Penseur, à recommander à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt.
Merci.